ta série préférée à la télé. Fais ta réserve pour l'hiver. CaféSobab.com.
Boulevard, le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Quand on fait de la radio pour faire une météo, souvent on se met à réfléchir à comment on va annoncer ça. Parce que vous dire qu'il fait froid, vous le savez. Vous donnez le genre de moins 18 qu'on a actuellement avec le refroidissement éolien. On pourrait ressentir tout au long de la journée moins 26, moins 27. Ce sont des chiffres. Des fois, tu te mets à réfléchir. Ah, oubliez pas de vous habiller chaudement, oubliez pas vos foulards. Si vous oubliez vos mitaines puis vous en avez juste une dans l'auto, vous allez la mettre dans la main gauche, en main droite à alternance aux deux secondes. Mais quand il y a un invité comme Denis Gravel qui entre en studio juste avant le pit stop, il faut que tu fasses une météo pour dire tout ce que je viens de vous dire, avec les risques d'engelure et autres. La seule chose qui m'a passé dans la tête, c'est si vous avez pas de cheveux comme Denis...
Mettez votre sucre.
Pas votre sucre.
On le sait.
Hey, je suis désolée, je ne dis ça.
Mais c'est vrai.
Mais toi, tu dois le sentir.
Mais écoute,
doit être un problème de gens chauds.
Ben, on s'habitue, c'est comme n'importe quoi, mais moi, je suis passé de cheveux très longs au secondaire à rasage de tête complet. Puis la première année, là, t'es hyper... C'est niaiseux, mais t'es hyper sensible, absolument. Puis il faut que tu fasses attention. Le pire ennemi, c'est pas le froid, c'est le soleil. Le soleil...
Tu crames-tu la tête?
Ben là, j'ai commencé à porter des chapeaux par nécessité. Je suis rendu à cet âge-là.
Ah, c'est pour ça que t'en avais au party de Noël, t'en étant dedans.
Non, ça, c'était... c'est une longue histoire
c'est
que je raconterai
peut-être
un jour. Là, c'est un cadeau que j'avais eu.
C'est très beau. Moi, j'aime ça. Je sais que tu l'as bitché, toi, Melania Trump, mais quelle femme élégante. Puis en plus, ben c'était un bon pare-soleil à Donald Trump.
Non, mais c'était pas un chapeau, c'était un safe space. ça lui assurait un rayon de protection autour d'elle.
Bon.
Même son chum n'était pas capable d'y donner un billet.
Moi, je pense d'un bar peut-être, là. Honnêtement.
Un chapeau de même?
Ben
oui. Ben là, ce que j'ai compris, c'est qu'au prochain party, tout le monde veut porter ça là, chez Leclerc Communication. Fait que faudra se tenir à distance.
Tu te couvres la tête pendant des froids glaciales comme ça?
Ben pas le choix. Puis j'ai la première fois que j'ai été rasé comme ça, puis que j'avais oublié de me crémer, puis j'avais pas de casquette, j'étais allé voir un spectacle aérien à la base de Bagotville au Saguenay. J'ai cuit comme un œuf. Je me suis ramassé avec la tête galée au grand complet. Puis depuis ce temps-là, je suis hyper sensible. Deux minutes au soleil, pas protégé, je viens rouge.
T'as brûlé.
Étourdi. Ah oui, solide.
Mais imagine solide, si solide. T'avais des engelures, ça repognerait aussi des engelures quand t'en vis une fois. Là.
Il y en a qui pourraient dire que mon cerveau a été irrémédiablement atteint depuis ce temps-là et que ça explique certains comportements, certaines prises de position et ainsi de suite.
Vraiment personne qui pourrait dire ça. Hey, Denis, comme à l'habitude dans le pit stop, on est trois. Marceau est pas là, mais Jacinthe Avarel est avec nous cette semaine. Puis là, on va aller réchauffer un peu la température en studio parce qu'on va aborder le sujet chaud de la journée. Et c'est pas nécessairement Donald Trump pour une fois aujourd'hui. On parle de quelque chose, par contre, qui va réaffirmer un certain pouvoir que les États-Unis peuvent avoir au niveau commercial versus les Canadiens, les Québécois. Ça semble être loin de nous, mais officiellement, c'est très près de nous. Et ça va aller rebrasser un peu nos convictions de travailleurs, même nous ramener à l'ère industrielle où on avait besoin de syndicats pour se défendre puis défendre nos droits quand une entreprise qui voulait faire de l'argent puis qui est un petit peu plus mercantile débarquait ici et ou qui se montait ici et qu'on a eu besoin de syndicats pour se défendre. Il se passe quelque chose, c'est pas nommé, c'est pas noir sur blanc, mais est-ce que ça a une influence? Peut-être, chose certaine, Amazon sac son camp de Québec.
On va en parler, nous autres.
Et sac son camp du
Parce que le premier ministre, lui, veut pas en parler, clairement, mais nous autres, on va en parler. C'est courageux, c'est audacieux.
Nous autres, on va en parler. Amazon qui a décidé de confier la livraison de colis à des sous-traitants. Il y a 7 sites qui vont fermer leurs portes. Ça, c'est plus de 1700 personnes qui vont perdre leur emploi dans un contexte assez difficile, économiquement parlant. Je veux vous entendre là-dessus. Je sais que, Jacinthe, ça te brûle la langue.
Absolument.
Puis toi, entendre Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, dire « Bien, voyez, on ne peut pas se fier sur des entreprises d'ailleurs pour assurer notre économie et nos emplois. » Ça vient de chercher de quelle manière?
Bien, j'ai hâte qu'on entende Denis là-dessus. Je ne veux pas trop m'avancer. J'ai hâte d'entendre sa perspective là-dessus.
Bien, c'est une histoire qu'on connaît déjà. McDonald's l'avait fait il y a plusieurs années de ça. Il y a un syndicat qui veut s'installer. Walmart l'a fait au Saguenay, effectivement. Un Walmart qui était bien neuf. L'histoire est en trois temps. Le premier temps, c'est que des employés décident de se syndiquer dans une entreprise internationale où on ne tolère pas les syndicats. Ils réussissent. L'entreprise ferme le commerce, dit que c'est pas relié au syndicat et que c'est une restructuration. Puis avec un peu de recul, ben on réalise que la seule restructuration touche les endroits où on avait essayé d'ouvrir un syndicat. Donc, les gens qui décident d'aller vers cette avenue-là lorsqu'ils sont des employés d'entreprises internationales et qui pensent qu'ils vont faire changer les choses ou qu'on leur fait croire, puis moi, je veux mettre de l'emphase là-dessus aujourd'hui, je pense qu'il y a des employés qui sont en joie le vert aujourd'hui parce qu'ils se sont fait promettre que ça n'arriverait pas. Je sais que c'est arrivé à l'époque des McDo, je sais que c'est arrivé à l'époque du Walmart à Jonquière, des employés qui, eux autres, voulaient garder leur job, mais là, ils se font vendre du bonheur, ils se font vendre des augmentations de salaire, des semaines de vacances de plus. Évidemment, c'est très alléchant. Oui, mais monsieur le représentant syndical, il pourrait pas nous fermer l'entreprise d'en face puis juste décider de continuer de faire du commerce ailleurs où ça leur coûte moins cher. Non, 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 on est au Québec, on est important, on est les syndicats, on est puissants, boum, l'entreprise ferme. L'employé se retrouve pas de job.
C'est
1700
pire.
Emplois perdus pour avoir essayé d'entretenir un rêve syndical à des endroits où tu peux essayer ce que tu veux. Ça nous rappelle la grandeur du Québec versus l'international. Puis juste la réalité difficile et cruelle parfois du commerce international. Je ne sais pas si tu vois les choses de la même façon.
Ben oui, absolument. Exactement comme ça. Et ça, sur trame de fond, où les villes, les gouvernements se pètent les bretelles depuis longtemps d'encourager, de décourager l'achat sur Amazon. Non, mais il y a cette trame-là.
Ben oui.
Je comprends le principe d'encourager l'économie locale. Je comprends le principe de favoriser nos entreprises.
Surtout
d'ici.
En ce moment, on
mais
l'a
Mais il reste
face.
Que c'est parler des deux côtés de la bouche qu'après ça, de dire « Oh, c'est des emplois québécois qui viennent d'être perdus », bien, les emplois québécois que tu aurais pu sauver ou qu'on encourageait aussi, c'est quand on fait venir des choses sur Amazon, on n'encourage pas le commerce local, mais il reste qu'il y a une partie de cet argent-là qui va dans notre économie, qui va dans le maintien d'emplois ici au Québec.
C'est
alors,
le manque,
les méchantes multinationales, il faut arrêter avec cette vision-là des méchantes multinationales.
C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on aurait plus intérêt à s'assurer justement que les produits québécois soient bien représentés. Je pense que Walmart a cette sensibilité-là. Ouais. Quand vient le temps de vendre des livres, des produits alimentaires et ainsi de suite. Est-ce qu'on aurait pu sensibiliser Amazon à ça? Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on parle des deux côtés de la bouche. Je serais très curieux de voir la liste des cadeaux de Noël des députés de l'Assemblée nationale et savoir quel pourcentage ont été achetés sur Amazon, comme tout le monde fait ou à
avec
peu près.
Avec la grève, en plus, qu'on a eue du
ben
côté
oui.
de Post-Canada. Puis, tu sais, je pense que c'est encore une histoire d'extrême. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu beaucoup de réflexion dans des endroits où, justement, on a amené un syndicat dans les années que l'on connaît actuellement, là, l'ère moderne. Est-ce qu'on s'est vraiment mis à réfléchir sur les possibilités d'un employeur? Il y a eu bien des gens qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Vous allez comprendre où je me rends. Bien des gens qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire au courant des dernières années parce que l'entreprise ne le pouvait pas. Mm-hmm. Elle allait être dans le déficit, ouais. si jamais. Puis elle a demandé à ses employés, bien que ce soit une demande difficile, de se satisfaire du salaire actuel pour aller plus loin. Là, je ne parle pas d'un salaire qui n'a pas augmenté depuis 6 ans. Il n'y a pas de convention collective. Je ne parle pas de ça. Je parle dans une entreprise qui est privée puis qui n'a pas eu cette possibilité-là vu le contexte économique actuel puis qui en a parlé puis qui a été transparente avec ses employés. Puis il y en a qui ont fait « OK, nous, on y croit. On est bien majoritairement. On va le faire, ce sacrifice-là. Dans les prochaines années, on en rejasera, on va s'asseoir. » C'est un peu... J'ai l'impression qu'il y a un genre une lutte de pouvoir où... un manque de réflexion dans dire « Hey, j'ai-tu un bon emploi? Est-ce que si ça ferme demain, je réussis à avoir les mêmes conditions? » Il y a quand même les droits du travail qui existent pour n'importe quelle entreprise qui vient s'installer au Québec, même ailleurs, au Canada. Il y a chaque province des règles qui sont mises en place et qui s'assurent en fait qu'on ne soit pas exploité en tant que travailleur. Et se poser la réflexion, savoir, est-ce que je fais des heures raisonnables? Est-ce que je comprends pourquoi, des fois, les heures créent un horaire atypique? Est-ce que j'ai choisi ça? Je peux-tu aller ailleurs? Est-ce que mon salaire va être meilleur ailleurs si jamais je transfère d'endroit? Est-ce que je suis obligée d'y aller par la force pour aller chercher des conditions? Et par la force, je vois ici l'implantation d'un syndicat. Est-ce que vraiment ça a été réfléchi aux dépens justement de mener à une fermeture. Puis c'était pas la première fois qu'on le voyait, des entrepreneurs québécois qui, au moment où des employés ont commencé à jaser syndicats, ils ont laissé les choses aller. À un point où les employés étaient contents puis ils se disaient « Yes, on va pouvoir l'implanter, ce syndicat-là », sont arrivés avec une liste de comment ça va se passer. Ça a été signé par l'employeur. 2 jours après, la clé était dans la porte. Là. Parfait, je le signe, mais c'est fini. L'entreprise ferme. Est-ce que ça a été balancé?
Mais c'est tellement évident. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive. L'historique est long, puis les syndicats au Québec ont un très mauvais historique. C'est des gens qui ne reculent pas, c'est des gens qui ne concèdent rien. Quand tu es une entreprise internationale et que tu peux avoir le même service avec un meilleur rendement, plus d'heures de production, puis que ça te coûte moins cher, n'importe qui chiale ce matin prendrait exactement les mêmes décisions qu'Amazon. Puis je veux pas vous jouer du violon sur ces pauvres entreprises multimilliardaires. Mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus. On ne changera pas leur façon de faire parce que le Québec n'est pas assez gros, pas assez imposant et pas assez puissant pour ça. Cette fameuse restructuration d'Amazon, est-ce qu'elle touche les autres provinces où on ne s'est pas syndiqué? Je pense que la réponse est non. J'ai essayé de vérifier là, avant de rentrer parce que je voulais saisir l'étendue là, de cette restructuration-là. C'est pas une restructuration internationale pour Amazon.
C'est une fermeture.
C'est pas un repositionnement stratégique non plus. C'est juste, on prend les entrepôts qui sont en train de se syndiquer au Québec puis on les ferme.
On ferme les 7.
Parce qu'on veut pas gérer ces problèmes-là. Oui. On est trop gros, on est trop puissant et on n'en a rien à foutre. C'est une dure réalité, peut-être, quand t'as grandi dans une mentalité syndicale de droits du travailleur et ainsi de suite. Mais ça ne changera pas les façons de faire d'Amazon.
Je trouve ça triste aussi qu'on ait, au Québec, une façon de négocier. C'est si ça ne marche pas comme on veut, ben tant pis, ça finit là. Puis on a un peu cette vision-là gouvernementale. On le voit dans la façon dont François Legault ou autres négocient. Ça ne marche pas selon ce que moi j'établis. Pas vraiment de part à la discussion. Puis on finit tout le temps par être perdant, au final, au Québec, avec cette vision-là puis cette façon de négocier. Je ne sais pas si toi, Jacinthe, tu vois la même manière de procéder que moi en étant passé par la politique, mais c'est comme si on se mêle des choses qu'on ne maîtrise pas. On se place au-dessus de meilleur leadership marketing et d'entreprise que l'on a personnellement, puis qu'on pense qu'on va gagner comme ça le bras de fer au lieu de négocier puis aller trouver un terrain d'entente.
Oui, souvent avec notre perspective de chez nous, avec nos lunettes de chez nous, sans s'élever un peu puis regarder ce qui se passe sur la planète. Alors, on juge beaucoup, on intervient beaucoup à partir de notre fauteuil dans notre salon chez nous, sans avoir pris la peine d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se fait, comment ça marche, c'est qui les grands joueurs, c'est qui les compétiteurs, c'est quoi la législation ailleurs, et on prend des décisions de salon.
Tu sais, le parcours du syndicalisme au Québec, c'est quoi? C'est un Québec où tout le monde travaille à l'usine 6 jours par semaine, des vacances, une journée à Noël, on travaillait comme des fous. Nos ancêtres se sont littéralement tués dans les usines. Il y avait des risques pour la santé. Il n'y avait rien d'autre que le travail. Puis quand tu tombais à la retraite, tu tombais littéralement avec rien. C'est pour ça que le syndicalisme a été créé au Québec. Puis le syndicalisme, rapidement, est devenu très fort en frais de pouvoir de négociation. Ils ont donné des conditions aux travailleurs. Ils ont donné des assurances que les salaires vont toujours monter. Ils vont négocier. Puis on va se le dire, les syndicats sont très puissants au Québec. Le résultat, c'est que oui, les travailleurs ont de meilleures conditions, puis bravo pour les employés au Québec. Mais l'autre résultat, c'est que toutes ces entreprises-là sont rendues avec des usines ailleurs où on fonctionne exactement comme on fonctionnait au Québec dans les années 40. Les entreprises multinationales vont toujours aller chercher ce qu'on va appeler le « cheap labor ». On a décidé de s'élever au-dessus de ça, mais on ne refait pas les règles du marché. On a le droit de le faire, on a le droit de se distinguer, puis c'est tout à fait correct. Mais il ne faut pas penser qu'on va gagner des bras de fer contre les Starbucks, les McDo, puis les Amazon et les Walmart de ce monde.
Puis encore,
ça fait plusieurs
là,
fois qu'ils nous le montrent.
On peut consommer selon nos valeurs et notre éthique, parce qu'un Starbucks de ce monde a quand même une éthique en arrière, que ce soit une multinationale. On préfère fort probablement aller encourager un petit café de la 3e avenue, un Sobab qui investit dans votre quotidien, entre autres avec Boulevard 101, des promos qui vous gâtent. C'est sûr que quand on se met à réfléchir, on va aller encourager ces gens-là. Mais il y a aussi beaucoup de multinationales qui ont une vision pour certaines qui sont éthiques, qui sont morales. Il y en a d'autres qui n'ont pas. Oui, mais... Est-ce qu'on a besoin d'un syndicat, par exemple, pour réguler ces entreprises-là? La réponse est sûrement non dans l'ère moderne, mais on peut remercier les syndicats d'autrefois qui ont amené ces conditions-là, mais il ne faut aussi pas vivre dans le passé puis se réaliser où on est rendu où.
Où on veut payer nos burgers 25$, où on veut payer plus cher quand on achète sur Amazon. C'est parce que ça, c'est un principe économique de base. Jacinthe Ève, rassure-moi, je pense que je suis correct. Moins l'entreprise coûte cher en frais de main-d'œuvre, plus les produits vont être accessibles pour le consommateur. Puis nous autres, on le sait, on est un peu cheapos avec l'inflation, puis tout, on court après les rabais. Dans le temps des fêtes, il y a eu la grève de Post Canada, tout le monde a acheté ses cadeaux sur Amazon.
Mais c'est pas une corrélation directe, Denis, par exemple.
Ben absolument.
Pas en tout, parce que ce que je dis, là, c'est qu'il y a plein de multinationales aussi qui ont des valorisations humaines en arrière. Il y en a que c'est faux, il y en a que c'est une pancarte, que c'est marketing, que c'est complètement con. Vous avez vu le reportage Buy Now sur Netflix, là, t'as des entreprises comme H&M qui disent « Rapportez vos vêtements, nous, on va l'envoyer dans des pays. »
Ouais, mais ça n'a rien à voir avec les valeurs ou l'éthique humaine. C'est des entreprises multinationales qui ne veulent pas se faire chier avec des syndicats.
Je comprends, sauf que ce n'est pas dans toutes les entreprises multinationales que tu as juste du cheap labor, puis c'est pour ça que tu payes moins cher. Il y a aussi des entreprises multinationales qui ont une conscience puis que tu peux choisir, toi, de payer moins cher, mais en plus d'encourager les bonnes.
Cheap labor, ce n'est pas nécessairement des enfants de 8 ans à Taïwan qui
c'est
font des t-shirts. Il y a du cheap labor au Québec.
Oui, un salaire minimum que tu n'auras pas nécessairement 30$ à un moment donné. C'est ça que je voulais exploiter.
Mais il reste que Amazon Canada compte 45 000 employés à temps plein et à temps partiel. 45 000 au Canada, on en a 1 800, là, près de 1 800 qui partent, qui perdent leur emploi au Québec. Il en reste quand même 43 000 ailleurs au Canada qui continuent de travailler chez Amazon. Et on oublie aussi, en plus des 1 800 employés québécois qui perdent leur emploi chez Amazon, il y a toutes les chaînes qui tournent autour d'Amazon, les compagnies de livraison qui sont des petites entreprises ou des moyennes entreprises, des PME québécoises qui assurent la livraison, qui vont devoir se réorganiser. Ce qu'Amazon dit, c'est qu'ils vont pouvoir reprendre les activités de tri de colis, mais là, les plus grandes entreprises de livraison qui sont capables, qui ont les reins assez solides pour reprendre le tri de colis, vont être capables d'ajouter ça à leur portefeuille de services, mais il y a une gang qui ne sera pas capable de...
C'est écrit beaucoup par texto. Il y a des gens qui travaillent, qui assurément sont concernés par les entreprises connexes qui sont touchées avec les dommages collatéraux.
C'est sûr.
Quelqu'un qui dit concernant Amazon, il y a de nombreuses entreprises de transport du Québec qui travaillent à remplir les entrepôts de Québec. La perte d'emploi va se faire subir à plusieurs endroits dans des secteurs qui sont les nôtres.
C'est ça.
Et la réaction du premier ministre ce matin, c'est pas anodin, c'est insultant, c'est moronique de sa part de faire des farces sur le Canadien puis le boycott du jus d'orange ou whatever. Il y a des milliers de gens qui sont affectés, d'une part par des pertes d'emplois, d'autre part par une multinationale qui dit « Nous autres, on débarque, ça va avoir des conséquences. » T'as pas besoin d'attendre que ton faiseux de discours te prépare quelque chose. T'es capable de réagir à chaud, avec émotion, avec un peu d'empathie. François Legault doit débarrasser le plancher. Ça fait trop longtemps qu'il est là. Il est dans sa bulle. On n'est plus capable de la percer avec de l'humain. C'est tragique ce qui arrive au Québec aujourd'hui. Puis tout ce qu'ils trouvent à répondre aux journalistes, c'est faire des farces plates sur la game du Canadien. Carrément. C'est une réaction
stupide. Ça démontre à quel point il est pauvre intellectuellement dans ces situations-là en ce moment. Et où dépasser? Mais là, je m'en fous.
Dans sa bulle.
Je m'en fous qu'il soit dépassé en ce moment. Pour moi, c'est d'être pauvre intellectuellement. Si tu as choisi de présenter ta candidature pour être premier ministre d'une province et que tu as tenté de traverser une crise comme la pandémie, peu importe si c'est de ta faute, c'est pas de ta faute, ça tombe tombé sa tête. Le moment où tu te présentes en politique, il faut que tu sois capable de tenir les rênes. Puis c'est pas juste la politique quand ça va bien, c'est la politique quand ça va mal qui va déterminer c'est qui est bon qui sont au pouvoir.
Puis on parle de François Legault, mais il y a Paul Saint-Pierre Plamondon aussi qui s'est prononcé, on l'entendait là, quelques minutes durant la pause publicitaire à la télé, dire ce sont des multinationales, bon, avec un ton comme si toutes les multinationales sont les méchants joueurs de la planète. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec particulièrement, les multinationales et les entreprises étrangères sont souvent les colonnes vertébrales de nos économies, auxquelles sont greffées un paquet de PME qui vivent grâce à ces multinationales-là en étant des entreprises de sous-traitance, de services ou de maillons dans une chaîne de distribution, une chaîne de production, une chaîne logistique. Alors, quand on perd un siège social ou quand on perd une multinationale, c'est une colonne vertébrale de toute une économie. Alors, c'est de ne pas comprendre comment fonctionne l'économie du Québec que de simplement se réjouir ou ne pas trop s'indigner d'un départ comme ça.
Nous, les extrêmes.
La la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui peut se permettre au Québec d'être Elon Musk ou Donald Trump, puis de jouer au bully, puis de jouer au bras de fer avec les multinationales. On n'est pas capable de backer. On n'a pas la force économique, on n'a pas le pouvoir. Si on embarque dans un mouvement qui part d'ailleurs pour être solidaire puis rajouter notre voix, évidemment, mais commencer à faire ces combats-là seul, on ne peut pas jouer à Donald Trump et Elon Musk ici.
Mais on
va toujours perdre nos mises.
Ce qui est triste, là, c'est de voir du monde qui essaie. Puis clairement, on va perdre d'avance. Au lieu de ça, va dans un constat de conciliation, va dans un constat de compromis, va justement évoquer la possibilité d'avoir peut-être une vignette un petit peu plus québécoise ou d'adhérer avec des entreprises, d'aller chercher même pour Amazon des affaires, d'aller chercher des commerces d'ici qui feraient affaire. Malheureusement, certains vont payer le prix, mais d'autres vont quand même enrichir leur portée aussi à travers le monde.
Tu sais, moi, ce qu'on m'a dit pendant des années, c'est que les syndicats sont puissants au Québec au point qu'un chef syndical est capable de rentrer dans le bureau du premier ministre à coup de calice de tabarnak, puis le premier ministre va être tout recroquevillé, puis il va dire oui, puis il va être poli.
On le voit en santé, là. Excuse-moi, mais on voit ce qui s'est passé avec les conventions collectives aussi des enseignants. Je vois que tu as de la tête, là, Jacinthe, mais... Rappelle-toi, Denis, on a couvert la grève enseignante pendant combien de mois? Puis c'est qui, même les enseignants, nous disaient hors d'onde ou bien en onde que le syndicat nuisait aux négociations?
Puis ces gens-là sont tellement habitués, justement, d'avoir le gros bout du bâton au Québec avec les gouvernements, puis avec leurs négociations avec les employeurs. Peut-être qu'ils y croient pour vrai. Amazon, il n'y a rien là. On va leur faire plier les genoux, puis ah ouais, en avant les braves! Mais ça fait tellement de fois que ça arrive qu'on peut même pas justifier ça avec
ça
une...
Ça fait Bob Gratton.
Pas mal, effectivement. Mais il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Hein? Elvis Gratton, pourquoi il nous faisait rire puis grincer des dents en même temps? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se reconnaissait. Là. C'était un effet miroir.
Mais on pouvait aussi se questionner. Si ça nous fait rire, on aime ça, mais on peut aussi se questionner. Ça montre la richesse intellectuelle.
Tu sais, je trouvais ça tellement à la fois drôle et tragique parce que j'étais au Saguenay dans ce temps-là de suivre les syndicats qui étaient convaincus qu'ils allaient révolutionner le modèle d'affaires de Walmart. Pour deux semaines plus tard, se ramasser avec un Walmart bien neuf fermé qui n'a jamais rouvert dans
sont
le secteur de Jonquière.
Au-dessus là, du syndicat, tu sais, ces gens-là qui ont travaillé, ils existent encore dans certains syndicats de ce monde. Est-ce qu'ils se permettent d'être la voix et la portée de certains employés ou ils ont démissionné?
On agit, on semble agir encore de cette façon-là.
On les voit beaucoup dans les médias. Là.
Oui.
Et ils ont des belles tribunes dans les médias. Les
c'est
syndicats,
essentiel de les avoir pour les challenger.
Ça. Ouais, ben ils se font pas challenger, ils ont des tribunes. Ils ont des tribunes. Non, ils ont des tribunes.
Puis y a-tu un représentant syndical qui va porter le blâme de cette fermeture-là et des pertes d'emplois? Y a-tu des gens qui vont dire, hey, on a peut-être gaffé un peu?
Y a-tu des syndiqués qui vont s'élever contre des représentants syndicaux?
Il y a des employés que j'aimerais ça entendre aujourd'hui, puis j'imagine que leur priorité, c'est peut-être de digérer ça, de parler avec la famille et ainsi de suite. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont eu l'impression de s'être fait rouler dans farine par des syndicats qui leur ont vendu quelque chose qui était tout simplement impossible et inaccessible.
On est là-dessus.
Là, ils n'ont plus de job.
Ouais. Ils n'ont plus de job. Puis, tu sais, le contexte n'est plus celui qui était aussi là, des dernières années, de la dernière décennie. Là. Trouver de la job dans un secteur d'activité avec certaines conditions qu'il y avait tout de même, pas nécessairement juste au salaire minimum, en ce moment, les taux se resserrent. Là.
Ben oui,
parce que
pour
aussi,
tout le monde.
Pour l'éducation, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a décidé d'aller à l'école, puis c'est bien correct, là, longtemps. Puis ceux qui sont allés à l'école longtemps ont de la misère de se trouver de la job, même au titre que ceux qui sont pas allés longtemps à ces jobs-là, il y a l'étau qui s'est resserré, les gens consomment plus de la même manière, ils n'ont plus le même portefeuille pour consommer. On entre dans une ère qui est problématique, puis d'avoir des pertes d'emplois de ce type-là va en rien aider, en fait, le retour à une moindre inflation ou encore à un secteur économique un petit peu plus vivant. T'sais.
Ouais, mais le Canadien, il a gagné. J'ai pas pris de jus d'orange. C'est la réaction du gouvernement à tout ce que tu viens de nous expliquer.
Toi, t'as un premier ministre quand tu te lèves qui répond comme ça avec tous les micros du monde qui pourraient l'aider à faire valoir un leadership, une prestance et surtout des solutions ou encore une vision de, comment dire, de colonne vertébrale qui est tellement essentielle en ce moment dans le contexte où on voit en politique provinciale, on voit même en politique surtout fédérale, et on voit encore plus en politique américaine le besoin d'avoir des leaders qui se tiennent. Si lui, il ne se tient pas là-dedans en ce moment puis qu'il n'est pas capable de répondre, le voyez-vous faire des négociations aux États-Unis avec des dossiers beaucoup plus importants puis quelqu'un qui n'en a rien à battre d'un François Legault qui va dire « Mais moi, je pense, Trump, que je ne suis pas d'accord avec ça. »
On dit, puis je suis le premier à être très critique des politiciens de style Donald Trump et ainsi de suite. Mais des fois, il faut se regarder dans le miroir. Là. Souvent, nos politiciens ne sont pas beaucoup mieux. Là. On verrait ça à l'étranger. Un premier ministre ou un président, où on vient de perdre des milliers d'emplois, qui répond comme ça, puis on serait scandalisé. On dirait qu'on est tellement habitué à la mollesse de François Legault qu'on ne lui en tient même plus rigueur. Je comprends que les oppositions sont sautées là-dessus, puis j'aurais fait exactement la même chose. Mais c'est rendu monnaie courante au Québec de laisser un premier ministre se défiler sur des questions majeures comme celle-là, alors que les gens ont besoin peut-être de se faire rassurer un peu, ouais, peut-être d'avoir un peu d'empathie aussi. Est-ce que c'est un dossier qu'on a suivi, ça, au gouvernement? Est-ce qu'on s'est proposé d'aller s'asseoir avec Amazon pour s'assurer qu'on ait un modèle d'affaires ou une vision des affaires au Québec qui est capable de concorder avec la leur? Est-ce qu'on est capable de faire des compromis pour, je sais pas moi, mettre de l'avant des produits québécois, assurer le fait qu'on va garder nos entrepôts et nos emplois?
Le panier bleu.
C'est pas du travail qui a été fait. On les c'est voit triste. Comme des... Oui, c'est triste. C'est triste parce qu'au total, c'est les travailleurs qui écopent. C'est un peu toujours ça.
Hein. Si toi, tu t'en vas pas en politique, c'est que t'as pas la prétention de croire que t'es capable d'aller là. Puis moi, je trouve ça très difficile des fois. Puis hier, j'ai encore reçu un courriel d'un auditeur parce que j'ai tendance aussi à faire la part des choses puis à défendre certains politiciens parce que j'en veux du monde qui se présente en politique. J'en veux du monde qui se met à risque, qui vont se faire haïr. Malgré eux, malgré tout.
Qui vont entraîner leur famille là-dedans.
Qui vont entraîner leur famille, puis qui vont. C'est un don de soi aller en politique.
Absolument.
Tu peux le faire d'une belle manière, d'une mauvaise manière, puis des fois, tu n'as aucune idée comment ça va sortir. C'est un peu comme des personnages de télé-réalité. Tu t'en vas là, tu peux être la meilleure personne dans ton entourage. Tout le monde te décrit comme étant une super personne avec des valeurs foncières. Tu arrives là, puis ils vont te portrayer le portrait que tu veux. Il y en a qui le méritent, il y en a qui le méritent pas. Des fois, c'est un choix. Des fois, tu es une tête de turc. On t'envoie au combat à l'avant comme une Mélanie Jolie dans le temps pour défendre un genre de Netflix, qui est un peu le même principe que tout ce que nous, on discute depuis le début. Là. Devant un géant, comment est-ce qu'on est capable d'aller trouver notre part du marché sans être l'insignifiant qui embarque pas dans la danse? C'est complexe quand même, mais l'insignifiance, pour reprendre le mot que Legault a démontré
c'est
ce matin, c'est impardonnable, puis c'est sûr que ça peut être risible. Pas dans les mêmes sphères que Donald Trump, mais c'est de l'insignifiance quand même, et ne serait-ce que si t'as rien à répondre. Puis je sais que j'ai été un petit peu émotive là, dans les dernières minutes, mais ne serait-ce que c'est rien à répondre, de dire « Hey, on a vu, on prend conscience, on trouve ça terrible pour les familles. »
On vient de l'apprendre. En même temps que vous autres, oui. On vient de l'apprendre. À première vue, c'est terrible pour les employés. Je vais aller me renseigner, je vous reviens avec une déclaration tantôt. Ça se dit, ça.
Et
c'est,
voilà.
C'est quand même assez simple.
Je sais pas, en politique, on prime quoi dans ce temps-là quand on sait pas quoi répondre? Le jus d'orange pour le hockey, ou encore au moins
mais
une réponse.
Je vais te faire un parallèle avec la radio. Il y a beaucoup de gens en radio qui ne veulent pas être mis à nu ou être pointés du doigt comme... En radio, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de dire « Hey, je le sais pas. Hey, je suis pas au courant. »
Ouais. Entendre quelqu'un ça... dire « Moi, il faut que j'aie une opinion sur tout, c'est ma
oui.
job, j'aille ça. »
Oui, mais il y a beaucoup de ça. Il y a des gens qui aiment mieux avoir une opinion complètement à côté de la plaque et complètement risible au lieu de dire « Hey, sais-tu, c'est un dossier que j'ai pas lu. C'est un dossier que je suis pas au courant. » Puis, je vais prendre une couple de journées pour me renseigner. Puis, si vous voulez encore avoir mon opinion dans deux jours, bien, je vais essayer d'arriver avec quelque chose. En politique, c'est un peu la même affaire. On se sent des fois obligé de réagir avec des lignes toutes faites ou whatever, alors que c'était tellement simple. Tu continues de marcher, tu t'en vas vers ton bureau, tu t'en vas vers l'Assemblée nationale, puis tu dis aux médias présents, écoutez... c'est une très mauvaise nouvelle. On est de tout cœur avec les familles et les employés qui ont perdu leur emploi. On essaye de comprendre ce qui se passe. À première vue, il y a des questions à poser. On a peut-être du travail à faire. Il y a peut-être un travail qu'on aurait dû faire aussi. Je vais aller voir ce qui se passe. On vous revient d'ici la fin de la journée avec quelque chose d'un peu plus concret.
Mais pensez-vous pas que Amazon, dans le contexte actuel, dans le climat politique actuel, il symbolise pas la toute-puissance américaine et qu'il n'y a pas cette trame de fond-là de mépris ou de haine envers les États-Unis là, parce qu'il est de bonne convenance d'être dégoûté face aux États-Unis, face à l'administration Trump? Alors, vous pensez pas que Amazon, dans le contexte ce matin, représentait, symbolisait la toute-puissance américaine, que le Québec est tombé dans un piège là, plutôt qu'en faisant preuve d'empathie face à l'égard de ces travailleurs-là, a tout simplement... a eu ce réflexe, un très mauvais réflexe, mais ce réflexe de lever le nez sur ce qui symbolise la toute-puissance américaine qui plie bagage et qui s'en va.
Si c'est le cas, Jacques Saint-Ève, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Parce que si on continue, mettons la ligne dure là, entre le Canada et les États-Unis, puis qu'on tient ça comme c'est actuellement, avec les tarifs qui vont rentrer et ainsi de suite, ça veut dire que ce qui est arrivé avec Amazon aujourd'hui, c'est le premier domino d'une maudite gang qui, à un moment donné, vont regarder la business qu'ils font au Canada versus la business qu'ils font aux États-Unis et qui vont peut-être juste choisir le camp d'où est-ce que l'argent rapporte le plus.
Ben oui.
Puis ça, si c'est ça, si c'est le cas, c'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises qui sont installées au Canada.
Ben
puis,
non, puis on va... On est à 6 poignées de main de n'importe qui dans le monde. Là.
Ah ouais, ouais,
j'invite
ouais.
nos auditeurs, vous êtes à 6 poignées de main, à gang d'auditeurs qu'on a, là. Écrivez-nous, puis dites-nous, envoyez-nous ou faites savoir quelles sont les petites et moyennes entreprises qui vont être affectées par ces pertes d'emplois-là.
88-971-1021.
Oui, on parle des pertes d'emploi, mais il y a aussi des PME qui vont être affectées par ça, puis ça serait bien intéressant d'entendre vos histoires.
Faut arrêter ça, mais effectivement, répondez, c'est une excellente question de Jacinthe-Ève, autant par texto ou encore sur Twitch, on va vous lire. On s'en va à la pause, on va revenir avec Valérie Godreau dans un instant pour l'actualité municipale. Mais là, François Legault, là, c'était pas une maladresse, puis en plus, ça fait maintenant toute l'actualité, son déboire, sa réponse à cette fermeture-là, puis à cette... stupidité économique et gestionnaire de Amazon qui décide de couper 1700 postes et fermer 7 entrepôts parce que, justement, il y a des gens qui ont décidé de se syndicaliser. Des gens disaient « Ah, c'est quoi les paroles exactes de François Legault? » Je pense que je les ai. On va se quitter là-dessus. Je m'excuse, c'est pas ça. Mais c'est maintenant tout ce qui roule. Fait que s'il avait réfléchi un petit peu, il aurait répondu quelque chose de plus intéressant puis probablement que ça roulerait tout autrement dans les médias. Est-ce qu'il gère tout seul ses communications? Est-ce qu'il est bien équipé? Est-ce qu'il décide encore de s'identifier comme un loup solitaire au sein de son propre parti, ou encore c'est l'insignifiance de ce leader-là qui devrait gérer la province. C'est à vous de juger également. Merci, Denis Gravel.
Go, Habs, go!
Merci, Denis.
7 entrepôts Amazon fermés.
Le Canadien a encore gagné.
Oui, ça, je sais, mais...
N'ai pas bu d'orange ce matin. Pas de jus d'orange.
Gravel, dans le retour. Gravel!
Parlons de ma brève passion de l'après-midi. Parlons de Mark Carney qui a confirmé aujourd'hui...
Hey, Carney Girl! Elle est sortie de l'ombre!
J'ai décidé que j'allais jouer cette carte-là au moins jusqu'à la fin de la journée. Donc, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada qui a officiellement lancé sa campagne à la chefferie du Parti libéral du côté de Edmonton.
On dit que pour montrer l'audace et les changements avec Mark Carney, ce qu'on a décidé de faire, il n'y aura pas de souper spaghetti pendant la campagne électorale. Ça va être des soupers de chili con Carney. Mais le gars sur qui tu tripes, là, qui va devenir le prochain premier ministre, selon toi, c'est un gars qui mange beaucoup de viande, ça?
Un carnivore?
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est carnivore?
C'est carré.
Mais bon.
Mais Véro, faut attendre ça parce que toi qui aimes pas les pieds, il y a des ongles incarnés. Ça va-tu faire chaud?
Gravel. Boulevard. Dans le retour. 102.1. En semaine, 14h. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre laissez-passer familial pour assister à Disney sur glace du 28 février au 3 mars au Centre Vidéotron.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquettes.
Chez Marlin Chevrolet, on vous fait un méchant cadeau pour bien commencer l'année 2025. Aucun paiement pendant 90 jours sur le financement de la plupart des modèles GMC, Chevrolet et Buick. Passez nous voir. 21 40